Maire de France, bonjour. Nos communes ont la parole sur Radio Territoria, présenté par Christophe Bordet.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Maire de France, bonjour. On est ravis de vous retrouver, l'émission de Radio Territoria qui donne la parole à tous ces maires, toutes ces communes que l'on n'entend jamais ou trop peu et qui pourtant sont des acteurs locaux essentiels, qui sont des faiseux d'ailleurs, qui innovent en permanence, qui trouvent des solutions aux problèmes de leur population. Ce sont souvent d'ailleurs des rois du système D, si l'on peut dire. Alors pour ce nouveau numéro de Maire de France, bonjour, nous avons choisi de revenir sur les inondations de ces dernières semaines. Et oui, rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, comme le chantait Véronique Sanson. Sauf que quand il y a trop d'eau, eh bien, ça déborde et l'eau, comme tout le monde le sait, rien ne l'arrête. De nombreuses communes du Sud-Ouest en ont fait les frais ces dernières semaines, l'occasion de faire le bilan de ces crues exceptionnelles et d'essayer de comprendre si le changement climatique y est ou non pour quelque chose. Pour en parler avec nous, Denis Ferté, qui est maire de Saint-Antonin-le-Noble. Bonjour mon cher Denis Ferté.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pascal Ferrer au téléphone, deuxième adjoint au maire de Caumont-sur-Garonne, c'est dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Pascal Ferrer.
Bonjour.
Merci à vous d'être là également. Nous devrions avoir dans les minutes qui viennent, si tout se passe comme prévu, Alain Pascal qui est adjoint au maire de Marmande dans le Lot-et-Garonne, chargé des espaces publics et des travaux. Et puis en plateau, Emma Aziza qui est hydrologue, fondatrice et présidente du centre de recherche appliquée Mayanne. Merci beaucoup également d'être avec nous ici en plateau sur Radio Territoria.
Merci.
Alors je vous propose que l'on donne d'abord la parole à nos élus locaux qui viennent de vivre des situations difficiles, comme chacun le sait. Denis Ferté, tout d'abord. Denis, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, autant que je sache, si ça n'a pas changé. Et vous avez vécu les inondations il y a maintenant quelques jours, quelques semaines. À l'heure des bilans, là, vous en êtes où concrètement? Vous avez été lourdement impacté?
Oui, alors la crue de l'Aveyron, puisque nous sommes sur la rivière Aveyron, qui se jette dans le Tarn, qui se jette dans la Garonne. Oui, là, la crue a été importante, une crue à peu près tous les 20 ans, équivalente à celle de 2003, et qui a ravagé tous les quartiers bas de la commune, du bourg-centre.
Quand vous dites ravager, c'est un mot qui est assez fort quand même. Ça signifie quoi concrètement?
Ravager, c'est peut-être un peu fort, mais oui. Enfin, au moins bien inondé jusqu'à des hauteurs de 1m50, 2 mètres au plus bas du bourg.
Oui. Ça veut dire que beaucoup de maisons ont été impactées?
50 mètres à 1 mètre.
Beaucoup de maisons ont été impactées?
Oui, alors toutes les caves ont été noyées. Alors dans les caves, en principe, ce n'est pas des habitations. Chez nous, on a l'habitude, relativement à l'habitude qu'il y ait des inondations. Et dans les caves, les gens n'habitent pas dans les caves, ils habitent au premier ou au deuxième étage. Mais dans les caves, comme ça n'arrive qu'une fois tous les 20 ans, et que nous sommes une commune relativement touristique, donc il y a un mouvement de renouvellement relativement rapide, les gens n'ont pas l'habitude de la dernière crue d'il y a 20 ans, de celle de 81, et donc ils entassent dans les caves beaucoup de mobilier, de matériel et tout, et inévitablement tout ça est perdu.
Oui, ben justement, c'est intéressant ce que vous dites, il y a un renouvellement presque permanent de la population. Est-ce que parmi les habitants de Saint-Antonin-le-Noble, Denis Ferté, est-ce qu'il y en a qui vous ont dit « Ah non, mais c'est pas possible, nous on va pas rester là, c'est insupportable, on n'avait jamais vu ça », par exemple?
Oui, quelques-uns parmi les récents arrivés, ceux qui n'avaient pas cette expérience, quoi.
Oui.
Des gens qui sont venus là pour la retraite ou ce genre de situation et qui sont un peu déboussolés par ce type d'événement.
Et alors, qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les rassurer?
On n'a pas grand-chose à leur dire. Ça arrive régulièrement, ça arrive tous les 20 ans. Et voilà, il faut vous y préparer, c'est comme ça.
Bon. Denis, on va revenir vers vous dans un instant. Je voulais donner la parole à notre ami de Marmande qui nous a rejoint, Alain Pascal, qui est avec nous. Alain Pascal, qui est adjoint au maire de Marmande dans le Lot-et-Garonne. Merci beaucoup donc d'être avec nous et de nous avoir rejoints. Depuis 40 ans, jamais la Garonne n'avait atteint un tel niveau dépassant les 10 mètres. C'était le jeudi 4 février. Route est pleine, submergée. C'est tout juste si l'on voyait encore le pont de Marmande. Heureusement, depuis quelques jours, la Garonne a regagné son lit. Alain Pascal, est-ce que vous aviez déjà vu ça, vous ?
Alors, oui, bonjour. Donc, oui, j'avais vu ça en 1981, où elle était montée un peu plus haut, elle était montée 30 cm plus haut. Donc, ça fait quand même 40 ans que ce n'était pas arrivé. Donc, la Garonne a toujours des crues, mais ça a été des petites crues, et celles-là étaient d'importance. Et surtout, je crois que Pascal Ferrer ne va pas me contredire, on a eu surtout un défaut de prévision.
Il y a eu un défaut de prévision, c'est-à-dire
Les services de l'État ont annoncé une crue moyenne, alors que ça montait toujours, et les gens ont été surpris par la montée des eaux, qui était beaucoup plus forte que ce qui avait été annoncé.
Donc là, c'est Vigicru, c'est ça qui n'a pas fait son boulot pour vous ?
Vigicru, les sondes, elles vous donnent une hauteur d'eau. Mais après, les prévisions, elles ont été fausses, puisque on avait une cellule de crise à Marmande. Donc le mercredi matin, on était avec le sous-préfet et il nous annonçait 9,20 m et on a fini à 10,21 m.
Ah oui, donc effectivement, il y avait quand même une différence qui n'était pas négligeable. D'ailleurs, il faut dire que la Garonne est passée de 130 mètres de large habituellement à 6 km, là, avec ces inondations. Donc, c'est quand même colossal. Le fleuve a débordé sur plus de 60 km. Donc, ça veut dire évidemment derrière beaucoup de problèmes et beaucoup de dégâts. D'ailleurs, ces dégâts, chez vous, ils se sont traduits de quelle manière concrètement ?
Les gros dégâts ont été sur les digues, puisque sur la communauté d'agglomération, on a un kilomètre de digues qui sont partis, plus plusieurs kilomètres qui ont été écrêtés. Donc, c'est-à-dire quand l'eau passe dessus, si vous voulez, les digues sont érodées. Donc, il y a des gros dégâts et avec des grosses sommes en jeu.
Donc, ça veut dire que ces digues ne servent pas à grand-chose, pardon.
Les gens qui habitent dans les zones inondables, ils sont habitués. La Garonne, c'est quand même un fleuve qui monte haut, mais qui monte lentement. Ce n'est pas une vague comme on a pu voir dans le sud-est. Quand la Garonne monte, elle monte...
Oui, ce n'est pas la vallée de la Roya, oui. Mais non, dites-moi quand même, juste une chose, Alain Pascal. Finalement, est-ce que ces digues, ça sert à quelque chose ?
Alors, oui, parce que les crues, jusqu'à une hauteur entre 8 et 9 mètres, elles ne pénètrent pas dans les terres, donc ça préserve les terres.
Alors ces digues-là, il y a beaucoup de dégâts, ça veut dire beaucoup de travaux à venir, beaucoup d'argent qu'il va falloir trouver, dépenser ?
Bien sûr, oui, le président de Val-de-Garonne a chiffré le dégât sur les digues à 5 millions d'euros, et bon, ce n'était pas fini parce que tout n'était pas dégagé, mais donc, ça commence à faire beaucoup de sous.
Bon, je vais donner la parole également dans quelques instants à Pascal Ferrer, dont vous parliez il y a quelques minutes. Mais j'aimerais évidemment accueillir notre autre invité qui est ici en plateau avec nous, Emma Aziza, hydrologue, je le disais, fondatrice et présidente du Centre de recherche appliquée Mayan. Tout d'abord, ce centre de recherche, concrètement, c'est quoi et il fait quoi ?
Alors, en fait, si vous voulez, nous, on cherche à répondre aux vraies problématiques des territoires en essayant de prendre ce que l'on sait de mieux et de réfléchir, d'essayer d'apporter, en fin de compte, ce que fait la recherche habituellement, mais de l'apporter directement sur les territoires plutôt que de l'apporter dans des publications de recherche. Donc, ça change tout, c'est-à-dire qu'on répond aussi à des appels d'offres, on travaille sur de la réduction de vulnérabilité à l'échelle de villes.
Donc, il y a des communes qui font appel à vous pour avoir des informations, des dossiers.
C'est ça, et nous, on va chercher des méthodes, on va chercher à trouver les méthodes qui vont être les plus adaptées à partir de l'état de l'art des connaissances pour essayer ensuite d'apporter des réponses concrètes au territoire Et surtout, cette recherche, elle se fait en continu, c'est-à-dire que c'est en travaillant sur les territoires qu'on découvre vraiment ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui sert, ce qui ne sert pas. Par exemple, je vous donne un exemple, on a loué pendant très longtemps le fait qu'il était essentiel de poser des repères de crues partout en France, parce que ça correspondait à quelque chose qui était essentiel pour la culture du risque, pour permettre de mieux comprendre finalement le niveau précédent historique des crues. Et puis, on a mené des études psychosociologiques et on s'est rendu compte que finalement, la population qui passe par ici se rend compte qu'effectivement, il y a un macaron, très souvent, il n'est pas visible. Et quand on le voit, finalement, on se dit que c'est passé dans l'histoire, mais qu'entre-temps, les ingénieurs sont arrivés, ont fait leur travail, ont endigué, et que finalement, le risque n'est plus présent. Donc, en fait, l'idée, c'est de regarder tout ce qui est préconisable en France, de le mettre en application et de réfléchir derrière pour voir si ça sert vraiment ou pas.
J'avais une question toute simple à vous poser, et on va continuer de parler de votre travail, bien évidemment, mais... On a entendu que voilà, c'était une crue exceptionnelle, voire historique. On n'a pas vu ça depuis 1980, etc., etc. Bon, moi qui suis de Gironde, je connais bien ces histoires de crues. Je les ai vécues aussi dans le passé. Voilà, je me dis finalement, bon, bah, des crues, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Donc à chaque fois, on a l'air complètement surpris par ce qui se passe, mais en réalité, c'est juste un phénomène naturel.
Alors, non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une variabilité naturelle des inondations, comme vous le dites. On a vécu déjà des grands événements sur ce bassin-là en 1981, sur d'autres territoires. Chacun a son lot d'historique, en fait, d'événements majeurs historiques, qui vient nous raconter une histoire. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a tendance à fixer un niveau de période de retour, en fait, qui est une donnée uniquement statistique, qui nous permet d'évaluer effectivement qu'une crue a une chance sur 100 de se reproduire tous les ans. Donc attention, parce que j'entendais tout à l'heure, effectivement, ça se produit tous les 20 ans. Je vais vous donner un exemple. 1846, 1856 et 1866 sur la Loire, trois crues centennales en l'espace de 30 ans. Donc demain, l'année prochaine, on peut très bien revivre exactement la même crue. Donc ça ne se produit pas avec une récurrence qui, finalement, on n'est pas tranquille pour les 20 prochaines années. Ce que beaucoup de gens ont tendance à penser quand ils s'installent, malheureusement, sur des territoires et après ils se rendent compte qu'ils sont meurtris. Il suffit de prendre les gens sur le bassin de la Seine pour se rendre compte qu'en l'espace de 4 ans, ils ont vécu 3 inondations majeures chez eux. Et effectivement, ça ne se produira pas dans 30 ans. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que cette variabilité, c'est l'histoire qui la raconte. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et ça, ça nous raconte une nouvelle histoire. C'est-à-dire que l'année 2020, c'est l'année la plus chaude qui a jamais été recensée dans l'histoire depuis qu'on enregistre, qu'on a des stations de mesure, non pas en Australie ou en Inde, mais en France. Donc là, je parle de la France, a vécu 16 mois consécutifs de moyenne de température mensuelle historiquement élevée. Ça veut dire quoi? Ça signifie que ça va conduire à plus de sécheresse, on l'a vu, plus de canicules qui accentuent les effets de sécheresse. Donc on a ces îlots de chaleur qui se créent notamment dans les centres urbains. Et puis, dès lors qu'on va avoir des systèmes dépressionnaires, donc avec ces arrivées atlantiques qui arrivent, et que vous avez des températures au niveau du tronçon de l'atmosphère qui sont plus importantes, à chaque degré de température supplémentaire, vous avez un pouvoir de précipitation qui est plus fort. Donc c'est ce qu'on a vu sur la Tinée et la Roya et la Vésubie. On avait estimé qu'il aurait dû tomber 250 mm d'eau, donc 250 litres d'eau par mètre carré là-bas, et il est tombé 500. Parce que justement, ces températures étaient trop élevées, et donc on a eu le double. Là, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est-à-dire qu'en soi, bien sûr que ça représente et ça nous donne ce sentiment de voir des événements qu'on a déjà vus dans l'histoire. Sauf que déjà, ce territoire, on l'a urbanisé différemment, on a aménagé. Ces 6 km de l'Imageur dont vous parliez tout à l'heure, ils ont énormément évolué. On est passé de prairies à des systèmes agricoles, à des zones pavillonnaires.
On va en parler, oui, c'était donc, avec Pascal Ferrer.
Donc effectivement, on a augmenté la vulnérabilité, mais de plus, on est sur un système qui, de toutes les façons, est plus précipitant. Donc, en fait, on sera amené à vivre des événements plus importants de ce type-là. Ça a touché, effectivement, d'abord la Garonne, ensuite, ça a touché la Charente. Mais on voit bien que, peu importe la localisation qui est touchée, c'est de toutes les façons plus grand.
C'est un peu que vous nous décrivez un peu.
C'est plus grand et plus fort.
C'est l'effet ciseau, quelque part. Il y a plein de choses qui se cumulent tout d'un coup.
C'est ça.
et qui s'entraident quelque part dans les possibles drames que l'on peut vivre à travers ces inondations.
C'est... Mais qui sont un fait nouveau et qui sont un fait qui est lié au réchauffement planétaire global, qui est là très très clair et très net. Si vous regardez les images, vous avez des petits films sur Internet que vous pouvez retrouver, où vous regardez au fil du temps comme ça depuis 1900 aujourd'hui, et vous voyez qu'au fur et à mesure, toutes les zones du monde tendent à devenir rouges, alors qu'on était sur des moyennes à peu près normales. Aujourd'hui, ces variations extrêmes et ces records historiques arrivent en France et ça donne ce type de conséquences. Donc c'est quand même des choses qu'il faut prendre en considération quand on gère les risques à l'échelle de son territoire.
Alors on va demander son avis à Pascal Ferrer qui est avec nous, deuxième adjoint au maire de Caumont-sur-Garonne dans le Lot-et-Garonne. Pascal Ferrer, très clairement ce que dit notre invité aujourd'hui Emma Aziza, c'est que le réchauffement climatique et ses conséquences ne sont pas pour rien dans ce que vous avez vécu par exemple vous dans votre commune, ces inondations effectivement exceptionnelles. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Alors, c'est très difficile de pouvoir contredire Mme Aziza. Juste des dates. 1875, 24 juillet, on prend plus de 11 mètres à peu près, référence Tonnens. En 1930, au 2 mars, on prend 10,72 mètres. Et en 1952, on prend à peu près 10,81 au mois de février. Je doute fort que le réchauffement climatique, dans ces dates-là, ait eu une conséquence sur les inondations qu'on a eues. Si on prend 1875, sans faire de jeu de mots, on n'était pas dans l'ère industrielle, on venait juste de perdre les dinosaures et les mammouths. Donc je crois qu'il vaut mieux se concentrer sur la topographie. Effectivement, Mme Aziza a raison, le monde agricole a changé en 50 ans. On était sur des espaces davantage occupés par les prairies et l'élevage, où on avait des zones humides qui tamponnaient davantage les coups d'eau. Maintenant, une inondation, c'est une équation. C'est aussi un peu l'alignement des planètes. Si je reprends les pluviométries de cette année, on va prendre un mois de décembre où on est à peu près à 150 mm, un mois de février où on est à 110, et sur la première quinzaine, mois de janvier 110, et sur la première quinzaine de février, on était aux alentours déjà de 70 mm. Donc on arrive sur ces périodes-là où les sols sont gorgés d'eau, ils n'absorbent plus. Donc des sols qui n'absorbent plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau, elle s'écoule dans les cours d'eau, dans les fossés, dans les lits majeurs. Si en face on a nos cours d'eau principaux qui sont en charge en même temps, et si on a des coefficients de marée, puisqu'on est tributaire, nous, de la Gironde, de l'estuaire Gironde, qui sont un peu élevés, comme ça s'est passé pour cette crue, le week-end précédent l'inondation, on était sur des coefficients de marée très élevés, 92, on est redescendu 92-90 à partir du lundi. Si on prend 81, on était à peu près sur des coefficients supérieurs. Et voilà, une inondation, c'est un ensemble de phénomènes. Certes, l'urbanisation est liée pour quelque chose dans la rapidité de la montée des eaux, des sols qui n'absorbent pas. Mais je crois qu'il faudra chercher peut-être ailleurs et ne pas vouloir systématiquement dire que le réchauffement climatique n'a pour seule conséquence que de provoquer des risques d'inondation. Ça serait, je pense, une erreur de ne pas tenir compte du passé.
Emma Aziza ?
En fait, on est complètement d'accord. C'est juste que peut-être on n'a pas assez échangé.
Les mots ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai qu'au final, c'est l'alignement des planètes dont on parlait déjà.
Ce que je disais, c'est qu'en fait, tous les territoires ont leur lot de phénomènes historiques majeurs. Et d'ailleurs, si on prend par exemple la Seine à Paris, tout le monde se rappelle de 1910, mais il y a eu bien pire dans l'histoire. Et effectivement, on a une somme d'événements qui sont majeurs dans l'histoire, qui nous racontent de quelle manière on devrait déjà se protéger de ces phénomènes naturels historiques. Maintenant, ce que je raconte, c'est autre chose. C'est simplement un fait, d'accord ? C'est simplement le fait que, effectivement, on a des températures beaucoup plus importantes aujourd'hui sur la moyenne de l'année. Et donc, ces températures plus importantes favorisent en fait le fait que cette ascension de masse d'air, en fait, va avoir un pouvoir de précipitation plus important. Donc, on va amener des pluies plus importantes. Là où on aurait pu avoir un événement un peu moindre dans cette zone-là, il sera toujours plus fort. Voilà, c'est-à-dire c'est comme si on rajoute la petite goutte d'eau sur un vase déjà bien plein.
Est-ce que ce phénomène que vous évoquez, avec le réchauffement climatique, le changement climatique, va se poursuivre dans les années qui viennent, et même peut-être s'amplifier.
Alors, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que, en fait, le problème des politiques du climat, d'ailleurs, quand vous interrogez la plupart des gens, on parle du climat, on parle d'efficacité énergétique, on parle d'économie circulaire, on parle de tas de choses, on parle de déchets, etc. Mais nous, on habite sur des territoires, et donc il faut comprendre ce que ça veut dire, nous, concrètement, la retranscription de ce changement climatique sur nos territoires. Or, pendant 30 ans, on a parlé du climat en parlant des gaz à effet de serre et de trop d'émissions de gaz à effet de serre en disant qu'il fallait réduire. On a à peine réussi à réduire la croissance de l'émission des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on croît moins vite d'année en année, d'une année sur l'autre. Mais par contre, derrière, on n'a pas du tout gagné la bataille des gaz à effet de serre. Mais pendant ce temps-là, ces 30 années, en fait, ont permis ces émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est déjà dans l'atmosphère. Et ça va rester dans l'atmosphère suivant les types de gaz à effet de serre, entre 1000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, suivant les gaz à effet de serre. Et pour le CO2, un peu moins. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que cette atmosphère va continuer à se réchauffer dans les 30 prochaines années, peu importe ce qu'on fait. Même si demain, on se mettait tous à rouler en voiture électrique, en vélo, en je ne sais quoi, d'ailleurs, qu'on ne consommait plus d'électricité, ça continuerait à se réchauffer. Donc, en fait, de toutes les façons, on va être amené à vivre avec des températures plus élevées et donc ces écarts plus importants. Mmh. Et ces écarts, ça veut dire une alternance de trop et de trop peu, de trop avec plus d'inondations majeures là où on s'y attendait pas, avec ce type de scénario, même si l'histoire nous raconte qu'on a déjà vécu du très grand catastrophisme, mais en parallèle, du trop peu avec ces phénomènes d'étiage et de lits complètement à sec, où là, effectivement, il faut se poser de vraies questions pour notre résilience agricole.
Alors, je vais poser la question à tous nos invités. Pascal Ferrer, à Comment-sur-Garonne, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous, bon, les digues ont un peu lâché, hein, chez vous, il y a des travaux qui vont devoir être réalisés, c'est ce que vous me disiez quand on a préparé cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous souhaitez faire pour essayer d'empêcher au maximum qu'un certain nombre de lieux se retrouvent inondés comme ils viennent de l'être, en sachant que ces digues protègent jusque, admettons, 8 mètres de hauteur, par exemple, ou 8 mètres 50. Mais bon, voilà, quoi. On sait que ça dépasse, et comme ça a été le cas cette fois-ci, et ça pose des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors d'abord, c'est continuer le travail qui a déjà été entrepris depuis des années, hein, précédemment par les syndicats intercommunaux qui géraient les digues, avec la création par la communauté d'agglomération du GEMAPI, puisqu'on a répondu à la nouvelle réglementation qui a été mise en place. Donc l'ensemble des syndicats sont sous la coupe maintenant de VGA et du GEMAPI. Et on continue ce qui était déjà...
Ça veut dire quoi, GEMAPI, pour ceux qui nous écoutent, juste...
La gestion des milieux, des milieux aquatiques, d'accord. Et voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est ce que l'État nous demandait, hein, depuis la tempête Xynthia et le drame à la Faulx-sur-Mer, c'était de dire, attendez, moi, j'y comprends rien, les digues, il y a certains endroits où vous êtes organisés, d'autres, vous ne l'êtes pas, nous, on l'était. Mais l'État veut absolument que tout le monde passe avec la même réglementation, donc il nous a demandé de nous organiser, chose qu'on a fait. Donc voilà, on sait que suivant les zones, nos communes, on n'a pas la même protection de hauteur d'eau. Hein. Il y a des communes qui vont être protégées jusqu'à 8,40, d'autres, nous on a des cas avec la commune du Mazagenais, c'est 9,20 m. Nous, comment on va dire qu'on tient à peu près plutôt 9,80, voire 10 mètres. Donc tout le monde n'a pas la même protection d'eau. Mais ça, les habitants en sont conscients. Et puis, voilà, c'est aux maires des communes qui souvent sont quand même assez proches de leur population, ou que ce soit l'ancienne ou la nouvelle lorsqu'ils sont primo-accédants ou qui nouveaux habitants. On a pour ça les PPRI, hein, qui sont transmis aux habitants.
C'est quoi les PPRI?
C'est le plan de prévention au risque des inondations. Il a été justement mis à jour en 2020 et qui précise les modalités concernant l'urbanisme en fonction de...
Donc ça veut dire, juste pour bien comprendre, j'ai envie d'acheter chez vous, par exemple, je ne vais pas acheter sans avoir ces informations-là, normalement.
le notaire, déjà, de par la réglementation, a obligation de vous transmettre ces informations-là. Souvent, les notaires se rapprochent des mairies pour avoir la réglementation précise de l'endroit. Alors, il existe 5 couleurs, rouge foncé, rouge clair, violet, bleu foncé, bleu clair. En fonction de ces zones-là, vous avez une réglementation à l'urbanisme qui est différente.
D'accord.
Mais elle existe. Et souvent, les mairies, lorsque les notaires leur demandent la zone où ils sont, ils la donnent. Et le notaire a pour mission d'informer le nouvel acquéreur. Ensuite, les acquéreurs peuvent se rapprocher de leur mairie et les mairies disposent justement d'un dossier PPRI. Moi, il y a récemment, puisqu'il avait été mis à jour en 2020, j'en ai fait faire une édition et je l'ai donné à l'ensemble des habitations qui étaient en zone inondable sur ma commune, que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux, parce que quelquefois les anciens, c'est le pire. Ils croient connaître la réglementation et souvent elle a tellement évolué en 10, 15, 20 ans qu'ils ne sont plus au fait de la situation. Donc ça, c'est le travail des mairies. Les maires le font, ils sont à disposition de leurs élus, des habitants, il n'y a pas de problème. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? On a dans certaines communes, alors nous, Caumont, peut-être moins, puisque la zone inondable, on va dire, c'est plutôt presque une famille, tout le monde se connaît, on a tous des liens les uns aux autres, on se parle. Mais si on va sur des communes ou des agglomérations qui sont plus importantes, avec un turnover au niveau des habitants qui est plus important, on se retrouve avec des habitants qui viennent que pour dormir dans leur habitation et qui ont peu de relais avec les gens aux alentours. Et souvent, il arrive que ces personnes-là soient pas très au courant du risque auquel ils sont exposés. La réglementation existe, l'information existe, et bien voilà, c'est aux élus et aux habitants de se rapprocher les uns des autres et d'avoir ces informations-là.
Alors on va demander à Alain Pascal s'il pense d'abord la même chose que vous, et puis Alain Pascal qui est adjoint au maire de Marmande, je le rappelle, hein, qui est également avec nous. Alain Pascal, on vient d'entendre Pascal Ferrer qui dit, c'est vrai que normalement on est au courant quand on achète, si on est un nouvel arrivant, on est au courant quand même de la situation dans son quartier. Quel est votre sentiment par rapport à ça, rapidement? Et puis, par ailleurs, est-ce que par exemple... Je ne connais pas la situation de Marmande au point de vous la décrire moi-même là complètement, mais justement, je vous pose la question, est-ce qu'à Marmande, par exemple, parce que c'est arrivé dans tellement d'autres communes, on n'a pas trop bétonné, trop construit dans des endroits où il ne fallait pas forcément le faire?
Alors, non, pas du tout, puisque Marmande est un peu particulière, on est sur la rive droite de la Garonne, en hauteur, puisque Marmande, avec cette crue, n'a eu que 6 maisons impactées. Tout à fait en bas, près des quais. Donc, 6 maisons uniquement. Toutes les maisons impactées, c'est-à-dire les habitations impactées, il y en a une centaine, elles sont rive gauche, du côté de chez Pascal Ferrer, d'ailleurs,
de
l'un côté, et c'est la plaine de Garonne, c'est une plaine inondable. Et bon, les gens, en général, pour la plupart, sont des gens qui habitent depuis très longtemps dans cette plaine, même de ces deux familles, ils connaissent les risques. On a juste un point un peu particulier, c'est un lotissement tout à fait proche du canal qui vraiment est inondé à partir de 10 mètres, pas avant, hein, c'est vrai. Qui est un lotissement qui a été fait fin années 70, début années 80, et où ça a été un peu survendu à l'époque.
Oui, voilà.
Ils ont obligé des maisons à étage parce que c'est pas pour rien, sauf que les gens ont aménagé les sous-sols parce que la Garonne ne venait pas, sauf qu'elle est venue.
Oui, donc ça, c'est le problème des constructions à cette époque-là aussi, d'ailleurs. Hein. Les années 80, voilà, ça a été terrible pour ça, c'est sûr.
Voilà. Mais maintenant, on ne délivre plus de permis de construire dans ces zones inondables.
Bon, c'est plutôt rassurant. Denis Ferté, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à votre avis, vous qui êtes du côté de l'Aveyron, hein, l'Aveyron qui a débordé chez vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de... d'empêcher ça? J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Il y a les digues, comme on a dit, mais bon, voilà.
Non, nous sommes dans une situation où, comment dire, on est dans les gorges, hein, dans les gorges de l'Aveyron.
Donc bah oui.
L'eau défile, mais elle ne s'étale pas.
Oui.
En amont, si on va aller dans l'Aveyron, il y a des barrages pour essayer de retenir un petit peu l'eau. Mais... ces barrages, ils sont pleins et enfin, ils se remplissent. Et ils ont un rôle de régulation, mais pas au-delà. Le gros risque que nous avons, nous, c'est une rupture de barrage. si jamais il y avait une rupture de barrage, alors là, c'est sûr qu'on a 10 mètres sur l'ensemble du village. Et, bon,
oui, là, ça serait un peu comme la plaine de la Roya. Quoi, un peu, là.
On regarde passer l'eau. Hein, voilà.
Ouais, ouais,
ça, et c'est quelque chose, je l'ai déjà dit, qui est relativement courant. Faut dire, quand ça arrive tous les 20 ans, ou même plus, hein, parce qu'après, il y a des crues plus petites. Bon, ben, c'est des phénomènes habituels dans les quartiers bas de la ville. Voilà, on des bords.
Est-ce que l'État est au rendez-vous?
Pardon?
Est-ce que l'État est au rendez-vous, là, quelques semaines après ce qui s'est passé?
Est-ce que les...
L'État.
L'État? Oui, l'État vient d'être déclaré une catastrophe naturelle, là, ce matin. Donc... Toutes les indemnisations des assurances et tout ça.
Avec retard, quand même. Avec beaucoup de retard, là, pour le coup, quand même. On est 3 semaines après. Hein ?
Oui, ben, quand c'est une sécheresse, on arrive à avoir la catastrophe naturelle 6 mois plus tard. Hein. Bon, c'est déjà pas si mal.
Oui.
D'autant qu'on peut être indemnisé avant d'être déclaré catastrophe naturelle. La catastrophe naturelle ne fait qu'amener quelques avantages supplémentaires pour les assurés.
Au niveau de votre commune, ça a un coût de combien à peu près ce qui s'est passé là, vous savez ou pas?
On n'a pas l'estimation précise de ce qui s'est passé. Les dégâts sont des dégâts matériels et du mobilier, je l'ai déjà dit,
ouais.
Des choses. Il n'y a pas eu ni dégâts humains, ni grosses... complications, quoi.
Ouais.
On est dans la...
À Marmande, Alain Pascal, est-ce qu'il y a... On connaît le coût financier de ce qui s'est passé, là, ou pas encore?
Oui, on commence à connaître. Alors, nous, pour la commune de Marmande, on a une plaine de loisirs qui a été complètement inondée, bien sûr, et détruite. Donc, on a chiffré les voiries, les remblais à refaire. Enfin, on est autour de 350 000 euros.
Mmh.
De dégâts. Après, les voies, c'est la communauté d'agglo qui les prend en charge, mais c'est très lourd.
Mmh.
Et après, bon, bien sûr, chez les particuliers, bon, mais là, c'est comme dit mon collègue, mon confrère, du mobilier, voilà, principalement, mais pas de victimes, heureusement.
Alors, ce qui est vrai, et on va clore cette émission spéciale inondation avec vous, maire de France, là-dessus, Emma Aziza, c'est vrai que finalement, ces catastrophes, entre guillemets, naturelles, ou en tout cas, ces inondations exceptionnelles, là, en l'occurrence, ben, à chaque fois, ça a un coût, quoi. Et ça aussi, ça va augmenter avec le temps.
Alors, effectivement, on a de la chance parce que dans toute cette zone et tout ce secteur, on est sur des crues de grands bassins. Mmh. Donc, effectivement, on a le temps de le voir venir. On n'est pas sur des crues comme la bande méditerranéenne où, je vous donne juste un exemple pour montrer la force des flots. Vaison-la-Romaine, c'est un cours d'eau qui faisait 20 cm de hauteur, qui est monté à 10 mètres de hauteur en 4 heures. Mmh. Donc, effectivement, là, il y avait un nouveau lotissement qui venait de se créer juste à Laval, qui est 6 mois avant. Effectivement, tout le monde a été emporté.
Mais les maires ont arrêté de bétonner?
Et là,
Est-ce que les maires ont arrêté de bétonner?
Plus ou moins. En tous les cas, c'est plutôt bien géré, je trouve. Les zonages PPRI sont plutôt assez bien respectés. Les règles d'urbanisme sont plutôt bien mises en place. Après, le problème qui se pose, c'est qu'on a plusieurs problèmes. On a le problème des zonages PPRI qui fait qu'effectivement, on connaît très bien le risque dans ces zones. Ça a été modélisé. On a des problèmes de ruissellement qui peuvent devenir extrêmement importants avec des phénomènes torrentiels qui ne sont pas cartographiables et cartographiés. Et alors, qu'est-ce qu'on en emprunte les axes d'écoulement préférentiels, si vous voulez, sur un territoire, et ça peut tout ravager sur son passage. Bien souvent, les zones d'affluents aussi ne sont pas cartographiées dans des PPRI, alors que ce sont souvent les plus dangereux. Ce n'est pas les grands cours d'eau qui sont les plus dangereux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça coûte cher, alors qu'on a des solutions pour que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Il suffit pour ça, non plus de travailler, on a travaillé beaucoup sur ces 30 dernières années sur les ouvrages, sur le fait de contrôler l'aléa, sur le fait de mettre des digues, mais maintenant, effectivement, la logique est de travailler sur les enjeux, et maison par maison, en mettant des bâtards d'eau, en mettant des clapets anti-retour, en élevant le réseau électrique, tout un tas de solutions.
Mais il y a des aides pour ça ?
Il y a des aides qui sont mises en place par l'État et qui ont été renforcées d'ailleurs lorsque Elisabeth Borne était ministre de l'écologie, puisqu'on monte aujourd'hui à 80% d'aides pour les travaux, pour justement permettre de ne plus être atteint par ces phénomènes.
Alors ça, c'est vrai que les gens ne savent pas. Hein.
Alors, les gens ne savent pas, c'est compliqué. Mmh. Ça demande de faire des diagnostics. Qui les fait ? Effectivement, il y a très peu de gens. Et derrière, il faut ensuite savoir quel est le parcours pour obtenir les financements. Et donc, je pense que ça va être vraiment le prochain travail des prochaines années à venir pour éclairer, en fait, la personne lambda qui est prête à se faire aider, à se faire accompagner. Et même des villes en France, je pense à la ville de Nîmes ou de Palavas-les-Flots, qui prend jusqu'à 100% en charge les travaux, puisqu'il y a une complémentarité qui est faite par la ville pour que les gens ne soient absolument plus dans des zones où il y a un enjeu, un endommagement fort. Donc ça veut dire que ça coûtera moins cher. On n'est plus sur ces systèmes assurantiels, mais j'aimerais souligner juste une chose qui est importante, c'est que les gens qui sont inondés, c'est avant tout des eaux boueuses qui viennent de l'extérieur, qui rentrent à l'intérieur. Et souvent, quand les caméras partent, en fait, ben, y a d'autres traumatismes qui se mettent en place, puisque les gens perdent leurs biens personnels, souvent affectifs. Et donc, vous avez des vrais problèmes de santé mentale qui se mettent en place sur les zones qui ont été fortement inondées. Et ces impacts-là ont souvent été très peu traités en France. Et il va falloir qu'on s'accentue pour qu'on puisse accompagner ces populations.
Mais tiens, d'ailleurs, un petit truc, léger et sympa. Je signale qu'avec ces inondations, il vaut mieux passer son permis bateau, parce qu'en général, on ne peut plus utiliser la voiture. Eh bien, c'est possible. C'est possible à Marmande, grâce à une association et à Decathlon, qui ont mis en place, qui ont mis en place des cours pour pouvoir passer le permis bateau. Et Decathlon joue un jeu très intéressant dans cette histoire, en mettant à disposition son espace pour pouvoir prendre les cours nécessaires. Donc voilà, je voulais le signaler, parce que je trouve ça plutôt
incroyable.
Sympa, tout simplement. En tout cas, merci au maire qui était avec nous, Denis Ferté, qui est maire de Saint-Antonin-le-Noble, évidemment, Pascal Ferré, deuxième adjoint au maire de Caumont-sur-Garonne, et puis Alain Pascal, adjoint au maire de Marmande, également, qui était là. Merci beaucoup. Merci Emma Aziza d'être venue éclairer notre lanterne après ces inondations dans le sud-ouest. Petit clin d'œil également aux habitants de la vallée de la Roya, dont on a évoqué le sort au cours de cette émission. Effectivement, où l'eau avait tout emporté et qui passe un hiver difficile, parce qu'en plus, il a beaucoup, beaucoup neigé cette année, là aussi, année exceptionnelle. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Maire de France, bonjour. Nouveau numéro que vous allez pouvoir retrouver sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Et merci à Théo, notre réalisateur, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Tout simplement, on vous embrasse, on vous salue, à très vite.
Maire de France, bonjour. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.